VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Suspense au Ghana, le candidat de l'opposition à la présidentielle ghanéenne, Nana Akufo-Addo, qui s'est déclaré confiant dans sa victoire, prend de l'avance sur ses concurrents selon plusieurs médias locaux. Mais la commission électorale, toujours occupée au décompte des voix, n'a publié jusqu'à présent aucun résultat officiel. Le leader du nouveau parti patriotique, le NPP, qui se présentait pour la troisième fois au poste présidentiel, a prononcé jeudi soir un discours triomphant dans lequel il se dit confiant d'avoir remporté une victoire historique sur son rival, le président John Dramani Mahama, en course pour un second mandat. Ce matin, plusieurs médias locaux confirmaient cette allégation, bien que la commission en charge du dépouillement du vote ait annoncé un délai de 72 heures à partir de mercredi soir avant de donner les résultats définitifs. Deux radios locales ont déjà donné l'opposant gagnant avec 54,39% et 54,75% des voix, respectivement. Si l'un des candidats dépasse les 50% des suffrages, il n'y aura pas de second tour. Côté présidence, le chef de l'État, John Dramani Mahama, qui brigue un second mandat, a lancé un appel au calme. Il a dit à ses partisans qu'il respectera les résultats du scrutin, qu'ils soient positifs ou non, pour son camp. Mali, le procès de l'ex-chef de la junte malienne Amadouaya Sanogo et ses 17 co-accusés a été renvoyé au mois de février 2017, cela pour permettre au laboratoire Mérieux de faire un rapport d'expertise médicale des 21 victimes. Cette demande est une des exceptions des avocats de la défense qui avaient formulé une dizaine au total. La seule retenue a été l'établissement de ce rapport d'expertise. Le président de la Cour a donné un délai de 45 jours. C'est pour cela qu'il a renvoyé le procès à la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. En RDC, un deuxième dialogue politique s'est ouvert ce jeudi à Kinshasa sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Les protagonistes de la crise au Congo-Kinshasa ont tous pris part à ces assises de la dernière heure. Le président Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi n'étaient pas présents dans la salle, mais leurs délégués ont pris part à la cérémonie d'ouverture du nouveau forum. L'objectif est de trouver un compromis politique sur la gestion de l'après 19 décembre, date qui marque, selon la constitution congolaise, la fin du mandat du président Kabila. Au Kenya, on écoute Roger Kalala de Top Congo FM qui a un reportage sur ce deuxième dialogue politique au Congo-Kinshasa.
6 points de divergence soulevés par les évêques catholiques seront au centre des débats. L'organisation des élections, la gestion de la transition et la compréhension du respect de la Constitution figurent parmi les sujets qui divisent les deux camps. Pour le député Deli Sesanga du Rassemblement des forces acquises au changement, il faut attendre une solution à la crise créée par la majorité présidentielle.
Aujourd'hui, nous nous battons pour la tenue effective des élections présidentielles et législatives dans le meilleur délai et donner à ce pays les institutions légitimes que le peuple mérite.
À la majorité présidentielle, on s'appuie toujours sur l'accord du 18 octobre et on attend des propositions du Rassemblement. Lambert Mende espère un consensus sur les questions qui divisent.
Le dialogue a déjà commencé, il s'est terminé par un consensus. Il y en a qui étaient absents. Nous souhaitons élargir ce consensus dans l'intérêt du pays.
Les travaux ouverts jeudi devraient durer 3 jours, selon Mgr Marcel Outembi, Kinshasa, Roger Kalala de Top Congo pour La Voix de l'Amérique.
Au Kenya, les médecins infirmiers ont menacé hier d'étendre aux établissements privés la grève qui paralyse depuis lundi les hôpitaux publics du pays. Environ 5 000 professionnels de la santé réclament une augmentation de leur salaire. Les syndicats ont rejeté mercredi l'offre du gouvernement d'une hausse de 50 000 shillings dans les salaires. Entre-temps, au moins 14 patients sont décédés dans les hôpitaux publics en raison du manque de soins. Écoutez le témoignage d'un médecin qui travaille dans le privé, le docteur Nyan Dwi.
C'est vraiment la paralysie totale. Tous les hôpitaux sont vides. Les patients ont dû quitter à partir de ce lundi, le jour où ils ont décidé de commencer la grève. On voit que vraiment c'est de la paralysie totale. Rien ne fonctionne. Et nous qui sommes dans le secteur privé, on est débordés par les patients parce qu'ils quittent le secteur public pour le secteur privé. On a vu dernièrement des patients qui étaient dans des transports publics avec des sondes nasogastriques. C'est vraiment très grave ce qui se passe ici au Kenya.
Le docteur Eric Nyandoui à Nyeri au Kenya. Somalie, les principaux leaders politiques somaliens ont fixé au 28 décembre la date de l'élection présidentielle. Un scrutin peu démocratique déjà repoussé 4 fois. La nouvelle date a été annoncée jeudi soir dans un communiqué commun publié par le gouvernement, les présidents des États fédérés et la commission électorale somalienne. Ils ont précisé que des élections législatives en cours depuis octobre devront être achevées pour le 14 décembre et l'élection des présidents du Sénat et de l'Assemblée est prévu le 22 décembre.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique du Nord, près de 400 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont forcé ce vendredi à l'aube la haute barrière entourant l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc. Les migrants ont réussi à forcer les portes en 2 points de la barrière de 6 mètres de haut entourant l'enclave, un assaut au cours duquel 2 gardes civils espagnols et 3 migrants ont été légèrement blessés, a précisé à l'AFP un porte-parole de la préfecture de Ceuta. Et puis en Égypte, 6 policiers ont été tués et 3 autres blessés aujourd'hui au Caire dans l'explosion d'une bombe à un barrage routier. C'est ce qu'annoncent les services de sécurité. Conflit en Syrie, les troupes du régime syrien continuent à bombarder violemment à l'artillerie ce vendredi les derniers quartiers aux mains des rebelles à Alep, la grande métropole du Nord, malgré l'annonce par l'allié russe d'un arrêt des opérations de combat pour permettre l'évacuation de milliers de civils pris au piège. Pour le président syrien, la conquête de ces villes représenterait un tournant dans la guerre. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Philippe Mingo, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie.
Et oui, parce que c'est la reprise de la dernière grande agglomération qui restait aux mains de l'opposition à Bachar el-Assad, que la chute d'Alep est symbolique, parce que c'est la reprise d'une place forte des opposants à Bachar el-Assad. Et puis aussi, cette prise de la ville va permettre de libérer des moyens militaires qui vont permettre de poursuivre la reconquête de la Syrie, que ce soit dans la région d'Idlib ou davantage vers l'est, dans la direction de Raqqa. Donc oui, très clairement, c'est une très grande victoire et c'est vraisemblablement un tournant dans la guerre, oui.
La chute d'Alep témoigne-t-elle de l'échec de la communauté internationale, mais d'une montée en puissance de la Russie avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier ?
Alors je pense que la montée en puissance de la Russie, elle est évidente et cela depuis plusieurs années maintenant, donc elle est absolument incontestable, que ce soit dans le dossier syrien ou dans d'autres dossiers. Est-ce que c'est un échec de la communauté internationale ? C'est très clairement un échec occidentale, dans la mesure où les Américains et leurs alliés n'ont pas réussi à forcer la main à la Russie sur le dossier syrien. Pour autant, est-ce un échec de la communauté internationale ? Non, je ne pense pas, parce que la communauté internationale ne se réduit pas aux seuls occidentaux. Très clairement, c'est un échec des occidentaux vis-à-vis de la Russie. Ça, oui, c'est certain. Je pense que le plus probable, c'est que Alep, les restes de la poche d'Alep seront liquidés avant la fin de l'année 2016.
Donald Trump, pendant la campagne électorale, a été très critiqué par ses adversaires ici aux États-Unis. Au sujet de ses supposées relations avec la Russie, avec Vladimir Poutine. Quelle lecture faites-vous de toute cette situation ?
Écoutez, je pense que c'est une défaite majeure pour l'administration Obama, peu de temps avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche. C'est vraisemblablement une leçon pour les Occidentaux qui ne voulaient pas admettre depuis plusieurs années que la Russie était revenue au premier plan sur la scène internationale. Et je pense que Donald Trump va pouvoir repartir sur de nouvelles bases avec la Russie, sur des bases, j'imagine, plus réalistes, en tout cas j'espère plus réalistes, de ce qu'est la puissance russe et de l'intérêt de s'en faire un partenaire et non pas un ennemi sur la scène internationale.
Philippe Mingo de l'Institut des Relations internationales et stratégiques était en ligne de Paris. Et pour terminer, Corée du Sud, les députés sud-coréens ont voté ce vendredi la destitution de la présidente Park Geun-hye, la privant de ses vastes pouvoirs exécutifs, conséquence d'un vaste scandale de corruption qui a précipité dans la rue des millions de personnes et paralysé son gouvernement. L'adoption par l'Assemblée nationale de cette motion de destitution transfère l'autorité de Mme Park au Premier ministre. Les pouvoirs de la présidente sont suspendus le temps que la Cour constitutionnelle entérine ou non sa destitution. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.